mal bon, ouais.
Buffer.
Picture this, I'm a bag of dicks. Put me to your lips, I am sick. I will punch a baby bear in his shit. Give me lip, I'ma send you to the yard. Get a stick, make a switch. I can end the conversation real quick.
Ça va, mon petit Martel?
Très bien, qu'est-ce qu'il y a?
Y'a rien,
c'est bon. Monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil.
Dans le mimosa? Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Comment c'est pas bon?
C'est ce que je lui disais.
Oh non, il disait d'estragon.
We will cut a frowny face in your chest, little wench. I'm unmentionably fresh. I'm a bitch, yeah, correct. I will walk into a court while it wrecks, screaming, yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked.
Je vais commander une pile énorme de crêpes au myrtille avec plein de sirop d'érable.
Moi, je voudrais du veau, du ragoût de mouton,
du bœuf à l'étouffer,
un poutin à l'oignon,
un œuf à la coque, des frites et 5 saucisses.
Start pumping your bunions, I'm coming, I'm the dumbest. Who flame throw your fuck shit to bunions?
Et pour voir, qu'est-ce que vous savez?
Oh.
Ce que vous voudrez, ça n'a pas d'importe.
Le tout venant a été piraté par les bombes. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre.
Je meurs de faim, moi.
Apportez-vous aussi quelques clapiotes. Pour picorer.
Mais dis donc, on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
Fuck out of here.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur le 92 FM ou le www.prune.net et vous écoutez Jambalaya, l'émission de cuisine musicale et culturelle de Prune, tous les premiers samedis du mois à 21h. Jambalaya, pour les nouveaux, c'est une heure de voyage sonore à travers les cuisines du monde et les méandres d'une histoire locale de la musique. Chaque émission, une nouvelle recette, afin d'aborder un territoire sous le prisme de sa culture, de sa musique et de sa gastronomie. Et cette saison, histoire d'aller encore un peu plus loin, on consacre désormais deux épisodes à un même territoire. En effet, après un premier diptyque sur le Sénégal, consacré au Yassa puis au Soupou Kanja, lors de notre dernière émission, nous étions partis au bout du monde, le vrai, à Brest, pour une émission exclusive et ultra documentée sur le fameux Kika Farce. Une émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de Prune et sur différentes plateformes telles que Spotify, iTunes ou encore Podcast Addict. Et dans laquelle j'avais eu la chance d'interviewer des cuisiniers et autres amateurs de bonne chère, brestois d'origine et ou de cœur, et tous passionnés de musique et fins connaisseurs de la vie culturelle de la cité du Ponant. Mais une heure, c'est très court, et après avoir cavalé entre lexique du terroir, recettes musicales et portraits du chef, il nous restait bien des choses à dire, et surtout à écouter en ce qui concerne Brest-la-Blanche et sa foisonnante histoire musicale. Et donc pour cette seconde pérégrination musicale en terre brestoise, j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir discuter avec deux personnalités ô combien importantes dans l'histoire de Brest et de sa vie culturelle. En effet, grâce encore une fois aux connexions du cousin Momo, a.k.a. Moebius, qui pour rappel avait notamment endossé avec brio le rôle de portraitiste pour nous raconter Miossec et son Brest natal lors de la première émission, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer, virtuellement bien sûr, période oblige, Gilda Riwalin et Mathieu Guerre-Berthelot, cofondateurs du festival Astropolis à Brest, le temps d'une discussion passionnante et ultra musicale au sujet des lieux, des mouvements artistiques, des artistes, des morceaux et des anecdotes qui ont jalonné leur parcours de programmateur et leur vie de Brestois. Niveau contexte, cette interview a été réalisée le dimanche 18 décembre 2020 pour une émission qui aurait dû être diffusée le samedi 2 janvier dernier. Mais quelques petits contretemps sont venus compliquer la chose, alors tant pis, à défaut d'inaugurer 2021, espérons que celle-ci permettra de tourner une bonne fois pour toute la page sur cette année 2020 interminable, et qu'elle sera annonciatrice de jours meilleurs, ou comme disait Alain, pour que ne durent que les moments doux. L'occasion à mon humble échelle de rappeler que si pour certains la culture n'est pas chose essentielle, elle est pourtant et restera l'une des seules choses qui, à travers les époques et les territoires, à travers nos doutes, nos fêlures, nos motifs d'espoir, nous anime, nous transcende et nous rassemble. Alors longue vie à la culture, au festival, à Brest et à Astropolis, et place à la musique.
We'll be right back.
Nous, on s'est rencontrés, on était étudiants à l'unité de gestion de Brest. On a commencé à faire nos armes, à organiser des concerts avec l'association de l'UT. Merci les étudiants d'avoir cotisé à l'association. Ça nous a permis de nous faire plaisir et de faire plaisir à tout le monde aussi, parce qu'on mettait en place des soirées où, en général, c'était quand même une très, très belle fête et tout le monde en profitait. Mais après l'UT, Mathieu a fait une objection de conscience au centre de création musicale. Moi, j'ai fait un service civil aussi au centre de création musicale. C'était un lieu sous la scène nationale de Brest, sous le Quartz. Il y avait des studios de répétition et puis beaucoup d'accompagnement artistique. En gros, il y avait un peu tous les groupes de Brest, aussi bien reggae, dub, rock, qui se retrouvaient, qui buvaient des bières et qui répétaient, qui refaisaient le monde, quoi. Donc c'était pour nous
vous avez rencontré un mentor aussi un peu.
Ouais, on oui. a rencontré un mentor qui s'appelle Christian Roux, qui était notre directeur et qui nous a.
Qui était bien plus fou que nous.
Un sacré personnage. J'ai eu la chance de rencontrer un sacré personnage.
Voilà, il nous a appris aussi à avoir le métier toujours avec le plaisir avant tout, en essayant d'être à peu près carré, mais pas trop non plus, parce que le côté bricolage fait partie de la folie de ce métier, et il ne faut pas l'oublier, parce que quand on arrive dans quelque chose un peu trop bien fait, on se fait chier souvent. Donc voilà, il nous a appris un peu tous ces côtés-là. Et après ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait de notre vie, et on a ouvert un magasin de disques, Place Guérin, où on a toujours nos bureaux d'ailleurs. Donc voilà, un magasin de vinyle, tout ce qu'il y a de plus classique comme vous pouvez avoir à Nantes. Il y avait TMR à l'époque, RCF aussi, je crois. RCF, ouais. Et voilà, avec quelques fringues. Et puis c'était surtout le lieu où tous les rêveurs se retrouvaient tous les jours. Hein. Toute la scène qui était là, aussi bien hardcore que techno, que house. Et c'est ce qui a créé un peu la famille Astropolis.
Ouais, et puis c'était un côté, comme on a toujours aimé, à la fois, on adorait la house, on adorait la techno, on adorait le hardcore. Quand on allait dans des grandes fêtes, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, on faisait tous les dance floors. On n'était pas focalisé que sur un truc, quoi. Et donc, on cherchait à trouver... les disques, les pépites de chaque style en fait. Et bah il y avait des spirales qui venaient, Marc des spirales, il venait au magasin déposer ses disques. On travaillait avec Rubik qui faisait du hardcore. On travaillait avec Adolphe Delis qui était plus techno house. Des gens qui me disaient tiens ça c'est un bon disque et tout. Enfin bon voilà quoi. Ouais on était assez ouverts. Donc on a eu plein de DJ qui sont venus de la house au hardcore. Quoi. On n'était pas fermé dans un style.
Mais le hardcore et la techno assez dure l'a remporté, facilement quand même.
Avec le développement des free parties, ouais.
On a eu beau essayer d'éduquer les gens à des musiques un peu plus douces.
Ouais, à l'époque, c'était les raves, mais c'était les free. C'était dur quand même. C'était techno au moins, quoi.
Ouais, au moins. voilà, on était une bande de copains et Astropolis, c'est un peu cosmique forcément, parce qu'on l'était aussi à cette période-là. Et oui, ça a toujours été cette cité des étoiles un peu imaginaire où tout est beau, tout est joli, il n'y a que des gens extraordinaires et c'est toujours le cas, je crois. On essaie de le revendiquer toujours et on essaie de le faire du mieux possible pour créer cette belle énergie. Mais voilà, une cité où il y aurait toute musique confondue, toute une diversité avec des gens le plus différents possible qui soient. Et on essaie de maintenir ce cap depuis le début, quoi, finalement. Mais c'est vrai que début des années 90, la musique électronique, la techno, elle était toujours reliée à l'espace, finalement. Et ouais. Aussi peut-être parce que nous, notre mentor, c'était Jeff Mills, et ça l'est toujours. Tous ces projets sont liés à l'espace encore aujourd'hui, quoi, tous ces albums, quoi. Et de toute façon, ils rêvent que d'une chose, c'est d'aller dans l'espace et de faire un projet là-haut. Et il y arrivera, j'espère. Hein. Et j'espère que je pourrai y aller aussi un jour, d'ailleurs.
Avec lui. Avec lui, hein.
Peut-être pas avec lui. Les deux.
Les deux dans l'espace.
C'est pas forcément le personnage le plus fun de la planète, quand même. Mais en tout cas, en écoutant sa musique, avec grand plaisir. Ouais. Déjà Finistère, hein, c'est le bout du bout, quoi. C'est la fin de la Terre, et c'est vrai que Brest, c'est le terminus. Hein. Moi, je dis souvent, quelle chance on a de pouvoir s'endormir dans le train quand on revient de Paris, quand même, parce qu'on ne loupera jamais notre gare, et ça, c'est un bon côté, surtout le dimanche matin quand on sort des clubs de Paris, c'est quand même un super bon côté. Mais c'est vrai que c'est une fin, c'est un terminus, mais c'est aussi un départ, parce que voilà, après nous, c'est l'Amérique, c'est l'océan, c'est l'horizon, et comme dit Mathieu, pendant de longues années, un peu moins aujourd'hui, mais sorti des études, en général, on quittait Brest parce qu'il n'y avait pas forcément du boulot, et on revenait en général à 40, 50 ans, à la moitié de sa vie, on revenait sur ses terres par besoin, peut-être, il y a quelque chose qui nous lie, et c'est vrai que le Brestois est souvent fier, mais je pense qu'il y a une énergie, peut-être un peu contre-culture. On n'a jamais été vraiment dans les tendances ici, ou alors on a 10 ans de retard. Ouais. Du coup, on n'est pas dedans, loin de là. Et c'est un peu pareil avec la scène musicale. Voilà, l'une des grosses références, ça a été le jazz, par exemple, qui est arrivé avec les Américains il y a 100 ans par Brest. Parce que voilà, Brest, c'était avant tout un gros port avec des bars partout, des cabarets, des maisons closes. C'était voilà, il y avait beaucoup de bateaux qui débarquaient, beaucoup de marins, et il y avait des bordels partout. Alors, il n'existe plus, hein, je vous rassure. C'est devenu une ville complètement sérieuse. Le quartier de Recouvrance, a perdu toutes ses valeurs. Il reste quelques pavés encore, mais c'est vrai que le quartier Recouvrance, encore il y a 20-30 ans, connaissait une dynamique avec ses bars de nuit, et aujourd'hui, tout a fermé.
Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès? Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. recouvrant ce que l'on délaisse. La rue des Siam, c'est nuit d'ivresse. Ce n'est pas par manque de politesse. J'ai l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe. Mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espace?
Pour des Brestois, le fait de choisir ce morceau Brest de Mieux Sexe, ça a une symbolique
particulière. Ouais, carrément.
Ah oui, oui.
C'était son deuxième album et le premier album, c'était Boire. C'était très symbolique, ça aussi.
Non, mais revenir à. Quand il dit Brest, c'est revenir à Brest. C'est-à-dire que. En fait, il fait un morceau par rapport à cette ville. Parce qu'en fait, Mieux Sexe, il a habité à La Réunion, il a habité Rennes, il a habité Paris. Il habite un peu partout, mais il est toujours revenu à Brest. C'est sa terre natale, quoi. C'est un truc qui est typiquement brestois. C'est envie de revenir à Brest. Donc, je pense que ce morceau, il l'a fait par rapport à ça, quoi. Je vais pas demander, hein, mais moi, je pense que c'est ça, quoi.
Est-ce que toi aussi, ça te bouleverse? Ces quelques cendres que l'on disperse, est-ce qu'aujourd'hui au moins quelqu'un te berce?
Brest, c'est une ville qui fait à la fois partie, pour moi, ça fait partie de la Bretagne, mais c'est une ville un peu à part, quoi. Elle est pas forcément, c'est pas la ville la plus bretonne, tu vois. C'est quand tu vois une manif à la télé, il y a toujours un drapeau breton. Et il pourrait y avoir un drapeau brestois, je pense qu'il serait là, quoi. C'est-à-dire que c'est une ville qui s'éparpille. Et je trouve que c'est une ville qui a un côté très... où tu t'y attaches, quoi. Et nous, on s'y est attaché, quoi. C'est notre ville, quoi.
Ouais, évidemment, Brest, c'est une ville militaire, mais c'est une grosse ville ouvrière aussi, quoi. C'est l'arsenal où il a fallu toujours se battre, très syndiqué. Enfin voilà, il a toujours fallu se battre pour avoir ce qu'on voulait. Et c'est une bonne leçon d'ailleurs, hein, parce que finalement, la vie, c'est aussi ça. Donc c'est vrai qu'on n'a rien sans rien, mais aujourd'hui, justement, Brest commence à récolter un peu le fruit de toute cette énergie, de tous ces acteurs qui se sont battus pour que la ville brille sur la carte des tournées des groupes étrangers, pour que la ville brille aussi bien en danse contemporaine qu'en musique électronique, qu'en rock, qu'en jazz. Il y a énormément d'acteurs, hein. Franchement, le nombre de producteurs, le nombre de producteurs qu'il y a à Brest, il est énorme. Demander pour être capitale française de la culture, ouais, quoi. C'est que ça y est, ils assument un peu et ils se disent, ben, finalement, ce bras de fer, parce qu'il y avait eu beaucoup de difficultés de compréhension, hein, l'adjoint à la culture, même s'ils s'enchaînent, faire comprendre l'intérêt la culture ici à Brest, ça n'a pas été évident tout de suite, alors que ça a un intérêt économique, ça fait vivre énormément de boîtes, c'est un intérêt touristique, beaucoup de gens viennent à Brest. Évidemment, si tu aimes la mer, tu viens à Brest, mais tu viens pas forcément pour la culture. Hein. C'est quand tu es étudiant, quand tu as le choix entre Nantes, Rennes, Brest, souvent tu vas à Rennes ou à Nantes faire le con, quoi. Tu vas pas forcément à Brest. Bon, aujourd'hui, ils se posent un peu plus la question, les jeunes, justement. Ouais. Ils se disent, tiens, c'est plutôt pas mal.
Il y avait un côté aussi, tu vois, la première fois qu'on a organisé Brest, qu'on a organisé à Astropolis à Brest, c'est aussi on s'est planté la première année, parce que les gens ont passé de Concarneau, Château de Cariolet, à Brest, et les gens avaient une image un peu de Brest, un peu pas super glamour, quoi. Et il a fallu faire accepter aux gens, voilà, le manoir de Carroal et tout. C'était compliqué, quoi. Brest, à part, parce que Brest, il y a du monde autour de Brest l'été, mais dans Brest, à part pour les gréments, hein, il n'y a pas de monde pendant l'été. C'est une ville qui est fermée, quoi. Et on a dû même convaincre des bars, des restaurants, quand on faisait ça début août, en disant, fermer une semaine après, quoi. Parce qu'il va y avoir du monde qui va venir, et quoi. Il faut que ce soit une belle ville, quoi.
Si on est parti dans le sud Finistère, c'est parce qu'en faisant le tour de Brest, on voyait bien que les portes étaient fermées. Et nous, on voulait continuer à avancer dans notre métier. Et pas de salle à Brest. Des fermetures au niveau de la municipalité, pas de discussion, on se barre là où on peut faire ça, c'est-à-dire on se barre dans le Finistère et on a même été jusqu'au Morbihan, jusqu'à Lorient. Pour la deuxième Astropolis. Si on est revenu en 2000, c'est parce que il y avait toute une nouvelle équipe au sein de la municipalité, au service culturel, des gens qui avaient 30-40 ans, donc on parlait le même langage, on parlait plus à des personnes qui avaient 60 ans, qui captaient rien du tout à cet effet de mode qui était la techno, parce que pour eux, c'était juste un effet de mode, hein, et en plus, une musique de drogués et de branleurs, donc on n'avait pas forcément tous les points pour discuter avec eux, et puis surtout qu'on était peut-être vraiment des branleurs et on faisait les cons, quoi. Donc ils n'avaient peut-être pas tort non plus. Mais ça a été, quand on est revenu, c'est parce qu'on sentait qu'il y avait cette ouverture, cette envie de la municipalité, enfin, avec une équipe jeune. Il y avait aussi une FNAC qui s'implantait. Donc, on se disait, une FNAC, c'est qu'il y a aussi un commerce sur la musique à faire. Donc, les gens écoutent de la musique à Brest, c'est quand même bien. Et puis aussi, ce collectif qui s'était mis en place pour la salle de concert. Ouais, et puis, ça y est, c'était engagé pour qu'elle sorte enfin de terre. Donc, beaucoup d'atouts et beaucoup de côtés positifs qui nous motivaient à revenir enfin sur nos terres justement, à pousser les portes et puis à y aller, quoi. Et quand on est arrivé en 2000, il a fallu prouver et montrer qui on était, hein, parce que la majorité était quand même contre le festival à Brest, hein. Ils ne voyaient vraiment pas l'intérêt de faire quelque chose, ou bien alors, s'il y avait une motivation, c'était de faire quelque chose plus à l'étiquette de Brest des années 80, c'est-à-dire comme son festival Rock sur la Blanche, quelque chose de rock, quoi. Mmh. Le public était avant tout rock à Brest, quoi.
Donc,
C'était déjà nain à l'époque.
C'était nos débuts et on n'était pas complètement dans cette culture-là finalement. C'est vrai que Brest c'était une ville rock, hein, c'était une ville ouvrière, ce qu'on appelait le rock 4-4, quoi, guitare d'instrument et 1, 2, 3, 4, c'est parti.
Les Ramones Party, on appelait ça.
Pourquoi Rock sur la Blanche? C'est tout simplement parce qu'au lever du soleil, notre ville qui a été complètement démolie par les Américains à la Seconde Guerre, hein, qui a été bétonnée à 100%, et bien au lever du soleil, justement, cette ville est complètement blanche. Et d'où son surnom Rock sur la Blanche. Et il y avait ce lieu-là dont on en a parlé tout à l'heure, qui était le centre de création musicale, qui justement cultivait cette culture, ce côté rock brestois, avec ses studios de répétition, avec ses musiciens qui se retrouvaient et qui se rencontraient. Et il y a eu de très belles formations, hein, dont Al Capote, par exemple, ou Devil's Delight, avec des meneurs. Là, on a cité ces deux groupes-là parce qu'il y a Bichon, qui était un mastodon un peu du milieu rock, metal, qui s'en est allé au cours de l'année, là. Et pareil pour Devil's Delight, Olivier Delair qui s'en est allé. Il y a eu beaucoup de grands départs en cette année 2020. Ça a vraiment été une année de merde, pour la musique également, et pour la culture aussi, tout court, d'ailleurs. Il y a eu très peu de groupes à dépasser la frontière bretonne quand même, parce que on était sûrement loin de cette machine qu'on pouvait trouver à Rennes, encore très loin de Paris, et le fait qu'on soit tout au bout, on était un peu les oubliés. C'est vrai que ce soit la DRAC, c'est-à-dire la direction régionale de l'antenne du ministère de la Culture à Rennes, ou le conseil régional, a beaucoup favorisé à un moment toutes ces grosses scènes rennaises, et la province bretonne, tout au bout là-bas, a été un petit peu négligée. Ça a été compliqué pour les groupes qui avaient du talent de quitter Brest et de se développer et de mettre en place des tournées et d'être aussi accompagné et aidé pour que ça se passe bien pour eux, quoi. Donc il y a eu deux gros artistes, hein, c'est Miossec et puis ensuite les Matmata, qui ont fait beaucoup parler d'eux forcément, et de notre ville également. Mais c'est marrant, hein, finalement, les deux gros artistes reconnus aujourd'hui nationalement, c'est ceux qui se sont inspirés de notre ville complètement, quoi. Parce que vient faire un tour à Lambé, c'est quand même du cru, quoi. Et boire et le morceau Brest, c'est enfin, pour moi, Boire, c'est le meilleur album de Miossec. Et il parle bien de cette ambiance brestoise, quoi. C'est sans tricherie, quoi. Brestville Pop, en fait, c'est un peu notre génération.
C'est notre génération. On n'y est pas pour rien, parce que c'est vrai qu'on a organisé les premiers concerts pop à Brest, avec les Bourrées de l'Aise. On a fait un invité Saint-Christopher, Mousse, Dibou Saïd, Peter Astor. Enfin, c'est, voilà, on organisait régulièrement, une fois par trimestre, on va dire, des concerts. Et il y avait une attente. Parce que sinon, tous les Brestois, ils allaient ou à Rennes ou à Nantes.
Et après, il n'y avait pas que nous quand même, Mathieu. Il y avait justement.
On était parmi les premiers.
Ouais, après, il y avait quand même beaucoup d'autres résistants qui avaient, par exemple, des émissions de radio sur Fréquence Mutine, hein, qui est la radio associative brestoise. Justement, Christophe, Renaud et Yannick et bien d'autres qui ont fait en sorte justement de pouvoir communiquer à fond sur cette culture un peu plus pop et qui aujourd'hui, Yannick, il est programmateur de la Carène, Renaud et Christophe ont monté leur magasin de vinyle indé pop électro et leur label Music for the Macy's, qui ont sorti justement des albums comme celui de Les Neux ou bien qui ont sorti là il y a deux jours un des morceaux des Batam Lions qui est juste une grosse tuerie.
C'est des mecs de Brest du coup, c'est ça?
Ouais, c'est des mecs de Brest qui habitent Nantes maintenant.
Ah, tu mets mon regard.
Quand j'entends ça, moi je suis super fier, quoi. C'est ça y est, on commence à avoir des artistes. Ça va être très dur pour eux, et quoique après les Batam Lions, ils ont déjà un petit bout de chemin quand même, et puis ils ont déjà fait un peu leur nom, mais aujourd'hui pour un groupe brestois, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident de sortir un peu des murs, quoi. Et quand on entend ce qu'ils font aujourd'hui, ces jeunes groupes là, putain, ça c'est moi je suis super fier parce que c'est beau, quoi, et ils ont du talent et si l'image de Brest aujourd'hui musicale c'est celle-là, c'est mortel, quoi. Et normalement avec leur talent ils devraient réussir, quoi, j'espère pour eux en tout cas.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les Sneux, j'avais connu avec The Slow Sliders, c'est son groupe au départ.
Ouais.
Ça.
Ouais, ouais.
Et les Bantam Lions, les deux, je les avais découverts dans le cadre de la tournée des Trans, en fait. Et du coup, donc pas en territoire brestois. Mais par contre, il y en a un qui, dans son projet solo, il décide de s'appeler Les Sneux pour Les Sneuvins. Et les autres, leur label, il est brestois avec Batides et... Et Music for the Messies, du coup, il y a un côté, comme on disait tout à l'heure.
Il y a un côté, tu reviens toujours aux sources.
Ouais, voilà. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est le côté, notamment dans toute la scène punk et même la scène rock, on parlait de Fréquence Mutine et des autres noms. Il y a vraiment ce côté pirate, un peu là aussi underground, mutin. Et dans le transfert de ce rock à cette scène pop qui est un peu plus peut-être glamour et qui n'hésite pas aussi à piocher dans plein d'influences, garder son identité brestoise, mais aussi peut-être justement pour se vendre un peu plus ailleurs que les frontières du Finistère. C'est intéressant parce qu'elle a réussi à pas vraiment trahir son point de départ tout en réussissant à s'ouvrir et perdre peut-être un petit peu de ce côté pirate, quoi.
Ouais, et ce que je vais rajouter, c'est que ce sont des poppies mais qui sont très punk dans l'âme quand même.
Ouais.
Ils peuvent largement aller coucher tout le monde également, quoi. Donc ils restent. C'est aussi ça le label brestois, c'est que.
C'est le label brestois. C'est quand les artistes ils viennent ici, tu vois. On en a couché plus d'un avant qu'on ait été couché. Même des Nantais. Hein. Même des Nantais.
Ils sont faciles à coucher, les Nantais.
On s'en fout ici, personne n'est Nantais.
C'est vrai.
Il y a beaucoup d'artistes oubliés à Brest et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font de la musique chez eux et qui sont pas très reconnus par les Brestois et qui pourtant ont une activité style Dale Cooper en The Dictaphone. Ils vont jouer à l'étranger. Voilà, ça reste une niche musicale, mais ils sont très très peu connus sur Brest. En général, quand ils font un concert, il y a tous les copains qui sont là, quoi. Mais ça fait beaucoup de copains, comme ils sont très nombreux sur scène en plus. Mais c'est vrai qu'ils sont pas très reconnus par la scène locale, et ce sont des gens qui ont créé un autre label dans le passé qui s'appelait Diesel Combustible, qui ont fait aussi beaucoup de développement de jeunes artistes. Certains d'eux faisaient partie d'un groupe qui s'appelait Tank, qui était un peu le groupe crowd rock, en tout cas avec des ambiances, des atmosphères musicales. Enfin voilà, ils ont fait énormément de choses. Ce sont des gens qui sont super dynamiques musicalement. Par exemple, Gaël Loison, qui fait partie de Dale Cooper, il a inventé tout un système de pédales d'effet qui sont aujourd'hui utilisés par Depeche Mode, par Ian Tiersen. Il fait partie d'autres formations. Enfin, c'est quelqu'un qui doit jouer dans 3-4 groupes et qui a une activité, qui est graphiste en plus. En fait, voilà, il y a beaucoup de discrets dans cette ville également et qui signent sur des labels, mais on n'est jamais au courant et c'est peut-être dû justement à ce manque à un moment d'acteurs et d'accompagnants pour les musiques, où pendant de longues années chacun devait se démerder tout seul, quoi, parce qu'il n'y avait pas de structure qui pouvait accompagner les artistes et les développer. Et ils ont gardé cette habitude-là, finalement, du do it yourself, de se démerder tout seul par leurs propres moyens, ce qui est une très bonne façon de le faire également. Hein. Il y a toujours une émotion en fait, et on retrouve quelque part à peu près la même émotion. On écoute Les Neux, Bottom Lions, Dale Cooper. C'est vrai qu'il y a derrière beaucoup de mélodies. En général, quand les villes sont dures, il y a toujours une mélodie, quoi. Et c'est l'exemple classique dans la techno, c'est Détroit, quoi. Une ville hyper dure, avec du chômage. Enfin, on ne va pas refaire toute l'histoire de cette ville-là, mais Underground Resistance, quand ils ont débarqué, évidemment, c'était un peu punk dans l'électro, et c'était dur. Ils revendiquaient vraiment le Black Power, mais quand ils te balançaient une nappe dans la tronche, tu la prenais, tu t'allongeais par terre, tellement que c'était puissant. Et donc, voilà, une ville dure va aussi créer de la douceur finalement dans les émotions et dans l'énergie, et on la retrouve beaucoup chez les artistes brestois finalement. Mm-hmm. vrai que pendant de longues années, il n'y a pas eu de structure qui pouvait accompagner. Aujourd'hui, il y a Plage Magnétique pour le jazz, il y a la Carène qui propose plein de choses. Nous, on commence aussi à produire des groupes justement comme Les Neux ou Gwendoline. Après, on fait un peu tourneur, on est un peu éditeur, mais pendant longtemps, il n'y a pas eu toutes ces structures et aussi toutes ces professions pour les jeunes artistes. Et du coup, il y a toute une richesse dont on n'entend jamais parler, quoi. Style Frank Cartel, c'est quelqu'un qui fait de l'électro façon Ox 88 depuis maintenant 25 ans et qui signe des maxi tous les 2-3 mois et qui attend finalement que cette musique, parce que ce sont des cycles, hein, là l'électro est revenu à la mode l'année dernière avec des artistes comme Elena Hoff, etc. Et je ne sais pas ce qui va sortir après le confinement. Mais c'est vrai que voilà, on les met un petit peu à l'honneur quand la musique revient un petit peu à la mode, mais sinon ils continuent pour autant leur activité, leur composition et on ne les connaît pas. Ce sont un peu les invisibles.
Del Cooper, ce qui est marrant, toi, c'est que c'est un groupe qui est local, qui fait leur petit chemin, quoi, tu vois. Et quand Étienne Dao est venu jouer l'année dernière à Brest, au Quartz, peut-être pas l'année dernière, l'année d'avant, quoi, parce que l'année dernière, il n'y avait pas de concert. Mais bon. Et en fait, Étienne Dao a demandé que Del Cooper fasse la première partie, quoi. Et ils ont été joués 4-5 morceaux parce que c'était un fan de David Lynch, c'était un fan de Twin Peaks et qui connaissait leurs morceaux, quoi.
Impressionnant parce qu'en préparant justement l'édition précédente, en commençant à m'intéresser à Brest, enfin, dans toutes les émissions de Jean-Balage, je fais la même chose. Je tape ne serait-ce que des mots-clés, quoi. Je tape Brest sur iTunes pour trouver des morceaux. Et il y a un nombre de morceaux qui s'intitule juste Brest, qui est quand même assez impressionnant. Hein. Et quand même une source d'inspiration intéressante. Mais du coup, la plupart, c'est quand même des Bretons et des Brestois qui leur rendent hommage à leur ville. Et voir un artiste qui n'est pas du tout de Brest, mais qui décide de faire un morceau qui s'intitule purement et simplement Brest, comme une forme d'hommage, c'est aussi une, c'est une belle marque de cette ouverture vers se laisser gagner par une ville qu'on découvre. Mais en plus, c'est un bel hommage à ce que Brest peut signifier pour des artistes de passage, quoi.
Ah ben, on était tous émus lorsque le morceau est sorti. C'était on était tous super émus et en plus c'est un beau morceau c'était super émouvant. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein, c'est souvent fait par des Bretons et c'est marrant parce que tu vois par rapport à Astro c'est pareil, c'est la plupart des artistes, enfin la dernière fois vous avez passé un morceau d'Electric Rescue qui s'appelait Astropolis, mais là il y a Kmail récemment qui a sorti un morceau qui s'appelle Kerwal, Julien qui a sorti un qui s'appelle La Cité des Étoiles, Garnier qui en a sorti un qui s'appelle From the Crypt to the Astrofloor, et tout ça sans nous le dire en fait, nous le balance quoi, c'est émouvant à chaque fois parce que c'est pas la demande en fait, c'est juste une façon de leur part de faire une révérence et de nous remercier et pour nous c'est super émouvant quoi, parce que ces artistes-là ils comptent énormément pour nous aussi quoi, ils font partie de notre ADN et font partie de nos vies et des artistes comme Erwan Rhône ou comme Laurent Garnier ou comme Antoine, enfin voilà, c'est ils sont là et ils seront encore là demain quoi. Les artistes qui font partie de la famille, comme Electric Rescue, comme Anum Malin, comme Matt Ben, comme Blutch, comme Oniris, ce sont aussi des amis, quoi. Il n'y a pas que la musique. J'en reçois beaucoup des propositions pour signer sur le label ou des artistes qui veulent qu'on les fasse tourner. Après, on n'est pas forcément très nombreux au bureau, donc c'est pas la quantité qui compte. Si on part à l'aventure avec un artiste, en général, déjà, souvent, voire tout le temps, je signe jamais de contrat. En général, je dis, on fera du mieux possible avec les moyens qu'on a, et si tu es prêt à partir dans l'aventure, on y go, quoi. Du coup, c'est une confiance après, quoi. C'est une confiance. Et puis de là naissent justement de belles énergies après, et surtout dans les moments durs, quoi, comme aujourd'hui, la culture se prend un gros coup de matraque sur la tronche, mais justement, on essaie d'être soudés, on essaie de trouver des solutions ensemble, on essaie de se motiver, et c'est là que le côté familial prend toute sa valeur et sa richesse, quoi. C'est que les artistes dont on s'occupe, c'est pas uniquement des références comme dans certaines grosses boîtes aujourd'hui, quoi. Donc voilà, on reste soudés et puis on essaie d'avancer du mieux possible.
Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Une heure, c'est très court, et comme d'habitude, j'aurais voulu vous passer plus de choses, plus de morceaux, mais aussi d'autres extraits de cette discussion, durant laquelle on a parlé de Brest et de musique, mais aussi de festivals en général, des trans musicales et notamment de Revo Trans, de Trip en Car jusqu'à Zurich, de Machine à Caresse, de Boîte à Slow, ou encore d'installation d'un mini sauna pour 3 personnes dans un abri de jardin en plein festival et de ce que ça implique, notamment en termes de normes de sécurité. Si l'épisode d'aujourd'hui était clairement plus musical que culinaire, tous les podcasts de Jambalaya portent le nom d'une recette. Et pour celui-ci, j'avais envie d'une recette à la fois locale et populaire qui symboliserait bien cet entretien avec Gilda et Mathieu. Une conversation à la cool, un dimanche, en fin de journée, sur la table de la cuisine chez Momo et A2. Il manquait juste l'été et un contexte plus joyeux qui aurait permis qu'on ne soit pas séparés par des écrans, nous à Nantes, eux à Brest, dans leurs locaux d'Alphonse Guérin, mais où cet entretien aurait pu se faire en présentiel, sur le port à Brest, autour d'un plateau de fruits de mer ou d'un crame-marteau. Ce ne sera pas pour cette fois, tant pis. Alors à nous d'imaginer. À nous d'imaginer un énorme tourteau de 800 grammes qui danse dans le sable de la rade, regardant passer les sous-marins, les chalutiers et les petites coques de plaisance. Un astro-crabe lumineux se dorant les pinces sur les rives de la Pinfeld ou répondant aux vibrations du grand large. L'œil fripon et la démarche mutine. Un éternel pas de côté, rythmé par les cadences de l'Arsenal, de Détroit, de Berlin. Un crabe au pantalon à pinces dorées qui rêve en transe dans un club, dans un champ, dans un hangar ou dans sa chambre. Un astro-crabe dont on devient marteau, surtout quand il évoque le recouvrance d'antan, les enseignes nocturnes de la rive droite quand on était tellement de gauche. Il a la pop naufrageuse du pays pagan, autant que la techno cosmique et rutilante de Motor City, un punk à chien déguisé en peau rouge, un dormeur à la recherche d'une cité dans les étoiles. Un astro-crabe un peu marteau, mais astro-bon, avec des pommes grenailles, un petit coup sur la caboche et quelques-uns pour le gosier. Que ce soit en tête-à-tête à midi, sur le port, à l'apéro pour démarrer la soirée, ou au petit matin pour illuminer Brest-la-Blanche. C'est un astro-crabe qui se déguste en musique et en bonne compagnie. Et j'en profite justement pour adresser encore un immense merci à Gilda et Mathieu pour leur disponibilité, leur simplicité et le cœur et la passion qu'ils mettent dans leur métier et dans tout ce qui concerne ce que le terme culture peut englober. Que ce soit pour organiser un rendez-vous pour 30 000 personnes ou pour parler musique un dimanche soir pour une émission amateur sur une radio nantaise. Un énorme merci aussi à Momo, bien sûr, le couze, fidèle au poste et vrai passionné lui aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker son dernier projet, Ainoun, en collaboration avec d'autres Brestois émigrés dans la région. Et en ce qui concerne Jambalaya, vous pouvez comme d'habitude retrouver tous les podcasts sur le site de Prune, sur les pages et réseaux de l'émission, ainsi que sur les plateformes de streaming et de podcast. En attendant de vous retrouver le mois prochain, je vous souhaite une bonne soirée, un bel appétit si vous vous apprêtez à passer à table, et une bonne écoute sur les ondes de Prune. À très vite.
Est-ce que vous auriez du coup un message de Brestois aux auditeurs de Radio Prune?
Venez vivre à Brest.